Le Saint-Esprit. Au milieu d'un monde qui se perd, il existe une race d'hommes petites, hélas, chez lesquels, quand on les voit de près, on peut constater la présence et l'action d'une force mystérieuse qui les conduit dans un sens opposé à celui de la foule et de leur propre nature. Parmi eux, par exemple, il est des hommes qui, tombés jadis jusque dans l'abjection, avaient vainement essayé d'en sortir. Raison d'intérêt personnel, affection sincère, bonne résolution, crainte de l'opinion, remords, dégoût d'eux-mêmes et terreur de la mort, rien, absolument rien n'avait pu briser leur chaîne. Lorsque tout à coup, celles-ci ont cédé à l'action d'un agent invisible, et cet affranchissement a persisté. Il a porté non sur un seul vice, mais sur l'âme tout entière. Un péché n'a pas remplacé un autre péché. Et ces hommes, sortis de la boue, on les a vus s'élever sous l'action de cette puissance à une vie qu'ils déclarent eux-mêmes être absolument nouvelle pour eux et surnaturelle, où leur être entier, esprit, âme et corps, s'épanouit librement. Cette force d'émancipation morale et de transformation, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle agit au sein de l'humanité. À certaines époques, et après un temps court ou long dans lequel on avait pu la croire disparue, elle a fait explosion en provoquant des mouvements d'une certaine étendue que l'on a nommés des réveils. Tel a été par exemple, sans compter ceux de ces dernières années, le réveil qui, dans le commencement de notre 19e siècle, a remué profondément les consciences, touché les cœurs, transformé des milliers de vies, donné une impulsion nouvelle à nos églises endormies et provoqué la création d'œuvres et d'institutions grandioses qui n'ont fait que grandir jusqu'à aujourd'hui. En remontant toujours plus haut le cours de l'histoire, on rencontre, au XVIe siècle, le plus grand de tous ces réveils qui, simultanément sur une foule de points, a ouvert une ère toute nouvelle, l'ère de la réforme, en dépit de la plus formidable opposition. Des hommes, jusqu'alors inconnus, ont senti, tout à coup, un feu envahir tout leur être, une vie affluer dans leur cœur qui a décuplé leur force en même temps qu'elle les purifiait. Exaltés par cette puissance, ils ont parlé, ils ont écrit, ils ont chanté. À leur voix, des myriades de leurs frères sont sortis de la mort de l'âme et, transformés en héros, ils ont affronté les supplices les plus atroces avec une joie pure de tout fanatisme. À quelle date, au-delà de ces réveils, au-delà de la réforme, au-delà des grands siècles de l'Église, faut-il remonter pour trouver le moment précis où cette force mystérieuse est intervenue pour la première fois et a déployé tous ses effets dans notre race? Transportons-nous à Jérusalem, 50 jours après la crucifixion de l'homme que l'on appelait Jésus de Nazareth. Dans une chambre haute, 120 de ses adhérents sont réunis. Ce sont des bateliers du lac de Génézareth, un douanier, quelques Galiléens et des femmes du peuple. Ces hommes et ces femmes sont à genoux, ils prient, ils attendent. Tout est tranquille dans la chambre et dans leur cœur. Tout à coup, la maison tremble. Une sorte de vent impétueux en secoue les parois. Sur la tête de ces hommes et de ces femmes, des formes indécises, mais rappelant des langues, apparaissent et se posent. Et ces hommes se lèvent. Un enthousiasme céleste s'est emparé d'eux. Ils parlent un langage nouveau. De leur bouche jaillissent des cantiques inspirés. Sous l'action d'une force irrésistible, ils descendent dans la rue. Ils y trouvent des milliers de personnes accourues au bruit étrange qui vient de se produire. Et ces bateliers, ces douaniers, hier stupides encore, hier pusillanimes, hier dénués de toute sagesse, parlent avec une puissance telle et un tel amour, une telle autorité et un tel tact que de ces milliers de poitrines s'échappe tout à coup cette question brûlante « Hommes frères, que ferons-nous » Et le soir n'est pas arrivé que ces 3000, le matin étrangers les uns aux autres, sont devenus disciples de ce supplicié, et entre eux des frères unis par des liens que rien désormais ne pourra rompre. Serait-ce là la source première de la force mystérieuse qui traverse l'histoire? Plus haut encore que cette date, une autre date se présente à nous. Au bord du Jourdain, un homme, le même qui plus tard sera crucifié, se fait baptiser par un autre homme qui d'abord a reculé d'étonnement. Mais cet homme a insisté pour recevoir ce baptême, qui est un baptême de repentance. Et cet homme fait une confession de péché, étrange confession sans doute, et le ciel s'ouvre, quelque chose qui ressemble à une colombe descend et se pose sur sa tête. Puis on entend une voix qui dit « C'est ici mon fils bien-aimé ». Après quoi, une force, celle-là même qui s'emparera des 120 Galiléens, le pousse au désert, d'où il revient 40 jours après, revêtu d'une autorité calme et invincible qui frappe ses ennemis eux-mêmes. Il parle aux hommes, il parle à la nature, il parle à la maladie, il parle aux démons, et démons, maladies, hommes, vents et vagues, tout cède à cette force qui sort incessamment de lui. Réunissez tous ces faits autour desquels se groupent des myriades de faits similaires, et vous serez obligés de reconnaître qu'au-dessus de toutes les forces connues, dans le monde physique et dans le monde moral, il existe une force supérieure, qui peut agir également sur la nature et sur l'homme, une force qui opère individuellement surtout, mais aussi collectivement, une force tantôt si douce que soit l'huile, soit la colombe ont pu lui servir de symbole, et tantôt si puissante qu'elle a été comparée au feu, à un torrent, à un fleuve, à un vent de tempête, et que, si l'électricité avait été connue alors, on aurait certainement comparé cette force aux plus formidables effets de ce formidable agent. La réalité de l'existence de cette force ne peut donc faire aucun doute pour un esprit non prévenu. Et aussi certaine que cette réalité est ce que j'appellerai son objectivité, par où je veux dire que, bien loin que cette force dépende de l'homme, ou soit une faculté ou un certain état psychologique ou psychique de l'homme, c'est l'homme qui dépend d'elle, même lorsque cette force s'unit étroitement à lui. Le livre qui parle de cette force et qui est l'une de ses principales œuvres dit, en décrivant ses effets, qu'elle saisit tout à coup tel homme, qu'elle descendit sur tel autre, ou même qu'elle tomba sur lui. Ce livre parle aussi de cette force comme disposant librement d'elle-même. L'air, l'eau, la vapeur, les gaz, l'électricité, tous les corps et toutes les forces autres que cette force ont été asservis à la volonté et même aux caprices de l'homme. On a pu capter les sources accumulées dans le sol et même celles qui se perdaient dans le cours d'un fleuve. Les agents les plus rebelles de la nature finissent tous par capituler devant l'effort persévérant du génie humain. Seule cette force fait exception. En dehors des conditions qu'elle a établies elle-même, ni talent, ni science, ni génie, aucune caste, aucun rite, aucun procédé, aucune méthode n'est capable de la capturer et de la monopoliser. Des siècles durant, à l'instar des prêtres de Baal, qui sautaient et se lacéraient sur le Carmel pour faire descendre le feu du ciel, des siècles durant, on tenterait par tous les moyens d'aboutir au résultat désiré, cette force ne se livrerait pas. C'est que cette force réelle, supérieure à l'homme, indépendante de l'homme, est libre. Elle est la liberté. Cette force est un esprit. À vrai dire, même cette force est l'esprit lui-même. Mais qui dit esprit dit un être qui veut, qui pense et qui sent. Serait-ce vraiment le cas ici ? Oui, nous dit le livre qui émane et parle de cette force. Cette force veut, et le livre dit dans les mêmes termes où il l'affirme du Père et du Fils. Ainsi, disons-nous, l'Esprit distribue les dons comme il veut, et pour l'utilité commune. C'est donc une volonté intelligente et réfléchie. L'Esprit, est-il dit ailleurs, souffle où il veut. À la volonté se joint la pensée, qui, même, formule des prières. L'Esprit aux Romains nous apprend, en effet, que celui qui sonde les cœurs comprend la pensée de l'Esprit lorsqu'il prie selon Dieu. Ce même passage nous montre, enfin, que le sentiment complète cette trinité qui constitue l'être personnel, c'est-à-dire la volonté et la pensée, car il nous parle de la sympathie de l'Esprit dans toutes les faiblesses du chrétien. Il est vrai qu'il n'est jamais adressé d'invocation ni de prière directe à l'Esprit, à part l'interpellation qui se trouve dans Ézéchiel au chapitre 37, « Esprit, Esprit, souffle des quatre vents des cieux ». Il est également vrai que, dans une foule d'allusions à l'esprit, celui-ci n'est pas traité comme un être personnel. Mais plus grand encore est peut-être le nombre des passages où il l'est clairement. À maintes reprises, l'esprit parle, pour dire à l'un « Approche-toi de ce chariot », à d'autres « Séparez-moi Barnabas et Paul ». L'esprit prophétise, l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, l'esprit commande, et comme il commande, il interdit, il ne leur permet pas. L'esprit conduit, l'esprit enseigne, il témoigne, il sonde, il scrute. L'esprit trouve bon et décrète, il choisit et établit des évêques, il envoie des missionnaires, il répartit des dons. En outre, on peut le contrister, on peut lui mentir, on peut l'outrager et le blasphémer. Le nom même que Jésus lui donne dit assez ce qu'il pensait à ce point de vue. Ce nom francisé, c'est le paraclet, ce qui veut dire l'auxiliaire, l'avocat, le défenseur, le consolateur. Et notez que Jésus dit de l'esprit un autre consolateur, par opposition à lui-même qui va partir. Enfin, en dépit des règles de la langue, et alors que pneuma, esprit, est du genre neutre, le pronom personnel qui le remplace, celui-ci ou lui, est employé au masculin, sans souci quelconque de solécisme. Eh bien, arrêtons-nous un instant sur ce point et réfléchissons. Il existe, avons-nous dit, une puissance supérieure à toute autre puissance. Puissance libre, puissance spirituelle qui est l'esprit, puissance qui, dans de certaines conditions, se met à notre disposition. Ce n'est pas une force aveugle, c'est donc un être qui a un cœur et quel cœur, en juger par les ardentes sympathies et la délicatesse inexprimable, les ménagements infinis et les tendresses qu'il déploie dans toutes nos infirmités. Quel est donc cet être? Est-il créé ou incréé? J'ai hâte de l'apprendre et vous aussi, je m'assure. C'est ici cependant qu'il faut se rappeler le mot de l'Éternel à Moïse « Déchausse les souliers de tes pieds ». Ici que s'ouvre le temple trois fois saint, sur le fronton duquel on lit « Ineffable ». Gardons-nous donc de toute profanation. N'imitons pas les gens de Bethshemesh qui voulurent satisfaire leur curiosité en jetant dans l'arche un regard indiscret. Il doit nous suffire de savoir que le livre de l'Esprit parle maintes fois de l'Esprit en parlant du Père et du Fils. Tous nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au terme de sa seconde lettre aux Corinthiens, Paul adresse ces paroles de bénédiction que nous répétons souvent à l'issue de nos cultes, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Dans la direction de l'Église, le même apôtre attribue les dons au Saint-Esprit, les ministères pour les employés, à Jésus-Christ en tant que chef de l'Église et les effets de ces dons à Dieu le Père. Dans l'Épître aux Éphésiens, quand il résume la foi de l'Église pour justifier ce qu'il dit de son unité, Paul écrit « Un seul Esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père ». Mêmes allusions dans d'autres passages. Du reste, la première partie de l'Épître aux Romains, celle qui comprend les huit premiers chapitres, se rapporte évidemment dans les trois éléments qui la constituent, la première au Père, la seconde au Fils, la troisième au Saint-Esprit. Pierre, comme son collègue, dira aussi « Élu selon la préscience du Père, dont la sanctification par l'Esprit et pour l'aspersion du sang de Christ ». Jude réunit aussi dans le même passage le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Enfin, l'Apocalypse s'ouvre par cette salutation sublime. Grâces et paix de la part de celui qui est et de la part de cet Esprit, c'est-à-dire de l'Esprit dans sa perfection, et de la part de Jésus-Christ. En outre, et pour qu'on ne soit pas tenté, semble-t-il, d'identifier absolument l'Esprit de Dieu et Dieu lui-même, en disant que l'Esprit de Dieu n'est pas autre chose que l'action de Dieu dans l'homme, il existe plusieurs passages qui paraissent reposer sur une distinction très précise entre l'Esprit Saint et Dieu. Irons-nous plus loin? Formulerons-nous rigoureusement le dogme de la Trinité, c'est-à-dire de la coexistence de trois personnes dans une même essence? Eh bien, pour ma part, j'hésite à aller jusque-là, parce que je m'efforce toujours de rester en deçà des lignes bibliques. Et plutôt que de boucler à tout prix un système, en dépassant, je le crains, les lumières que nous donne la Bible, je préfère adorer et attendre. Je ne nie pas, notez-le bien. Dans la communion de l'Église, je redis de tout mon cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais je demande à différer, jusqu'au temps de la pleine lumière, la question purement théologique de la distinction des personnes, en affirmant d'autant plus avec une énergie qui va croissant que l'Esprit de Dieu dans l'homme n'est pas une simple influence, par un esprit dans le sens affaibli et vague qu'on donne souvent à ce mot, que ce n'est pas quelque chose mais quelqu'un, Dieu lui-même, et sans intermédiaire, se communiquant par le fond de son être au fond de notre être. Dieu se donnant à nous personnellement, et avec lui-même, nous donnant la vie divine dont il est la source. Ainsi, je puis comprendre toujours mieux le mot prononcé par Jésus et redit par Paul, « C'est l'Esprit qui vivifie », mot qui, déjà sous une autre forme, avait été donné à Zacharie. « Ce n'est pas une armée, ni par la force, mais par mon esprit. » Ou à Ésaïe, à propos des chevaux sur lesquels faisait fond Israël. « Ils sont chair et non esprit. » Et à Ézéchiel, alors qu'en présence de ces corps reconstitués et complets qui représentaient le peuple, il devait faire cette remarque significative, mais l'esprit n'y était pas. L'esprit n'y était pas. L'esprit entra en eux et ils revécurent. C'est-à-dire, impuissance et mort sous les plus belles apparences, ou vie et force fût-ce dans les plus faibles organes, toute l'histoire, toute notre histoire, toute l'histoire de nos églises et de notre ministère est là, dans l'une ou dans l'autre de ces deux paroles. Et maintenant, avec cette conviction, essayons d'esquisser le travail de l'Esprit à travers les âges qui ont précédé Jésus-Christ. Dans l'œuvre créatrice, l'Esprit est là, planant sur le chaos, sur notre nébuleuse comme principe fécondant et organisateur. Plus difficile est la découverte du rôle qu'il a joué dans l'homme avant la chute. L'homme est esprit, âme et corps. Par le corps tiré de la poudre et originairement destructible, l'homme tient au monde inférieur. Par l'esprit, organe du divin, qui n'a de vitalité que dans une union organique et croissante avec le Saint-Esprit, il peut en venir jusqu'à être rempli de toute la plénitude de Dieu, un vase toujours rempli qui s'agrandit à mesure qu'il se remplit et se remplit à mesure qu'il s'agrandit. L'âme, elle, l'élément qui individualise l'homme, parce qu'elle est le siège du moi, le théâtre et l'enjeu de l'épreuve, l'âme a mission de pénétrer le corps de la vie supérieure qu'elle reçoit de l'esprit, et en le pénétrant, de le rendre immortel. Ainsi s'opérera l'ascension sublime qui aboutira à l'entrée triomphale de l'homme tout entier dans la gloire. Mais à une condition. S'il est vrai que là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté, l'inverse ne l'est pas moins. Là où est la liberté, et là seulement est l'esprit. À l'esprit ne suffit pas l'innocence, c'est-à-dire l'accomplissement instinctif du bien qui était l'état premier de l'âme. Il lui faut la sainteté, l'accomplissement réfléchi du bien, à laquelle on ne parvient que par l'épreuve. Jusque-là, le Saint-Esprit a préparé l'homme. Après l'épreuve et la victoire, il l'envahira. Hélas, il ne l'a pas envahi. En se détachant du concert des êtres qui gravitent autour de Dieu, l'homme a rompu la communication du monde supérieur, et toute cette belle hiérarchie fondée sur l'ordre s'est écroulée. Le corps restera poudre et par conséquent retournera en poudre. Au lieu de transfiguration, ce sera la décomposition. L'âme, elle, livrée aux forces inférieures que ne gouverne plus l'esprit, devient la chair, l'ennemi acharné de l'esprit. Quant à l'esprit, l'esprit de l'homme, il subsiste bien, mais vain, vide, dira saint Paul. C'est-à-dire qu'il va s'atrophier. De son union antérieure avec le Saint-Esprit, il lui reste pourtant assez pour que l'humanité emporte avec elle, dans son exil, tout ce qui a fait dire à Lamartine que l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Et j'ai dit à Tertullien que l'âme est naturellement chrétienne. L'homme ne peut se sauver. Mais il est susceptible d'être sauvé. Il est un pécheur, il n'est pas encore un réprouvé. L'esprit a encore en lui un témoin, une prise par conséquent. Aussi, dans son amour ineffable, va-t-il travailler à travers les âges à ressaisir l'homme pour reconstituer avec lui cette communion en dehors de laquelle il deviendrait de plus en plus psychique d'abord, puis décidément charnel, puis impropre au salut et finalement un démon. Dans l'âge des patriarches, on ne se doute guère, à vrai dire, de cet effort, en juger du moins par le silence qui se fait sur le nom du Saint-Esprit. Car l'Esprit de Dieu n'y est pas mentionné une seule fois, à part ce que dit Pharaon à propos de Joseph. Était-ce l'Esprit qui parlait à Abraham, à Isaac, à Jacob? Cela ne nous est pas raconté, la Bible se bornant à dire que Dieu s'adresse à ses hommes, sans nous révéler rien ni sur l'organe, ni sur les caractères de telle communication. Du reste, l'âge patriarcal est celui des théophanies, c'est-à-dire des apparitions et des songes. Dieu agit sur l'homme de loin. Cela est nécessaire parce que l'homme ignore encore ce que c'est que l'esprit et la vie de l'esprit. Il faut donc que Dieu se revête de formes humaines et recourt à des moyens inférieurs qu'il délaissera dès que le lui permettra le relèvement de l'homme tombé. Dans cet âge, pas un miracle accompli par l'homme. Beaucoup pour l'homme, mais aucun par son entremise. Il n'en possède pas la puissance parce qu'il n'a pas en lui l'esprit. C'est avec Moïse, avec la formation du peuple de Dieu et le commencement du gouvernement théocratique, que la grâce de Dieu fait un pas de plus pour se rapprocher de l'homme et pénétrer jusqu'à lui. Dès lors, le Saint-Esprit entre en scène et va être mentionné plus de 50 fois dans l'Ancien Testament. Mais ce qui en est dit diffère notablement du langage de la Nouvelle Alliance et démontre que, pour si réelle que soit l'action de l'Esprit dans l'Ancienne Alliance, elle est encore loin d'avoir l'intensité et les caractères qu'elle revêtira dans la Nouvelle. Cette action est en effet limitée sous trois rapports. Premièrement, quant au nombre des personnes sur qui elle s'exerce directement et qui est minime puisqu'il se réduit à celui des prophètes et de quelques hommes en charge. Moïse soupire bien après le temps où tout le peuple sera prophète, mais ce temps, il ne le verra pas. Jusqu'à la Pentecôte, quoiqu'héritier, le peuple restera mineur et sous tutelle. L'action de l'Esprit ne s'exercera que latéralement. Dans ceux-là même chez qui l'Esprit opère, son action est limitée au point de vue de la durée. Elle est intermittente. On l'a comparée au retour de la colombe dans l'arche et aux visites d'un fiancé à sa fiancée, ce qui était bien l'âme de l'homme alors quant au Saint-Esprit. Et c'est ici que le langage de l'Ancien Testament est le plus caractéristique dans ses différences avec celui du Nouveau. Dans le livre des Juges, nous lisons par exemple « L'Esprit fut sur Othniel, il revêtit Gédéon, il fut sur Jephté, il saisit Samson », expressions inconnues ou peu s'en faut au Nouveau Testament, tandis que celle-ci qui y abonde, l'envoi du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, communiquer, fournir le Saint-Esprit, avoir, recevoir le Saint-Esprit, être le temple, la demeure, le sanctuaire du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en nous, demeure, habite en nous, le Saint-Esprit nous a scellés, font totalement défaut dans l'Ancien. Vous n'y découvrirez pas la promesse de la venue de l'Esprit lui-même. L'action du Saint-Esprit y est affirmée, mais non pas le don du Saint-Esprit, ni son habitation dans les cœurs. Allons plus loin, et disons que dans cette action intermittente, il y a encore une autre restriction à faire. Limitée quant au nombre et à la durée, elle l'est encore quant à la profondeur, ce qui ressort déjà des noms donnés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé de trois noms dans l'Ancien Testament, et ces trois noms correspondent à trois degrés de son action. À la forme la plus extérieure et la moins nécessairement morale, correspond le premier nom, Esprit d'Élohim, Esprit de Dieu. C'est lui qui agit à la surface de l'homme, dans ses facultés intellectuelles et dans sa volonté pour y développer tel ou tel don spécial. Ainsi, dans Betsaléel et Oholiab, le génie artistique, dans les juges, le courage physique, dans Samson et Saül, l'héroïsme. À la forme déjà plus intérieure correspond le second nom, l'esprit de Yahvé, esprit de l'Éternel. C'est sous ce nom qu'il agit dans la théocratie comme esprit de révélation pour inspirer l'homme et faire de lui l'organe plus ou moins conscient de la pensée de Dieu. Mais plus intellectuel que moral, cette action communique plus la pensée de Dieu que nécessairement sa vie et sa sainteté. Enfin, à deux ou trois reprises seulement, l'Esprit de Dieu reçoit par anticipation le nom qu'il portera dans la Nouvelle Alliance, le nom d'Esprit Saint, Esprit de Sainteté. Et encore, cette épithète paraît-elle relever le caractère de cet Esprit en lui-même plutôt que celui de son action. Autrement dit, à la Nouvelle Alliance était réservée la grâce ineffable de cette œuvre de l'Esprit, telle que nous essaierons de la dire plus tard, œuvre de régénération, qui reproduit en l'homme l'image même du Christ et rend l'enfant de Dieu participant de la nature divine. Dans ses plus sublimes visions, Ésaïe, le plus complet des prophètes, contemple Dieu en tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous. Les nombreuses promesses relatives au Saint-Esprit montrent assez déjà quelle supériorité de privilège était réservée à la Nouvelle Alliance. Mais on peut le dire, le Seigneur a dépassé ses promesses et accompli au-delà de ce que jamais l'homme, même inspiré, aurait osé espérer et penser. Devons-nous aller jusqu'à prétendre, pygmées que nous sommes, en face de ces géants qui s'appellent les prophètes, que nous possédons plus qu'eux au point de vue du Saint-Esprit, un Enoch qui a marché avec Dieu, un Noé, le prédicateur de la justice, un Abraham, le père des croyants, Moïse, Josué, Samuel, Élie, Élisée, Ésaïe, Daniel, nos inférieurs. Inférieurs, entendons-nous, il ne s'agit pas ici de fidélité, mais de privilège. Et même sous ce rapport, il faut bien la déclaration expresse de Jésus-Christ, que le plus petit dans son royaume est plus grand que Jean-Baptiste, ou celle de l'Épître aux Hébreux, que tous ces hommes n'ont pas eu l'objet même des promesses afin qu'ils ne parvinssent pas à la perfection sans nous. Il faut de telles déclarations pour que nous osions nous croire plus favorisés. Sur leur ligne, ils peuvent être allés beaucoup plus loin que nous sur la nôtre, mais la nôtre va plus loin que la leur, incontestablement. Mais s'il en est ainsi, combien grande est notre responsabilité actuelle? Quoi? Enfants de Dieu, nous professons d'avoir tous et en permanence l'hôte divin, dont de brèves visites rendirent les hommes de l'Ancienne Alliance capables de si grandes actions, et nous accepterions de leur être inférieurs? Quelle soif de sainteté, au contraire, et quelle marche incessamment victorieuse dans la lumière le Saint-Esprit ne devrait-il pas produire aujourd'hui? Quelle joie débordante, quel amour brûlant, que de dévouement, quelle transformation de caractère, et pour tout dire en un mot, quelle ressemblance croissante avec Christ! Eh bien, qu'en est-il parmi nous de tous ces fruits de l'Esprit? Incontestablement, ils existent dans maintes vies, cachées peut-être, et d'autant moins éclatantes que l'œuvre de l'Esprit est plus continue, plus égale et moins marquée par conséquent de saisissants contrastes. Mais combien trop rares sont-elles encore ces vies-là, et plus nombreuses celles qui porteraient à croire que les promesses bibliques s'appliquent exclusivement à l'âge apostolique, à moins que le Saint-Esprit, au cours des siècles, n'ait perdu sa vertu. Là n'est pas l'explication du fait humiliant, mais la raison en est plutôt que, sous le rapport du Saint-Esprit, un grand nombre de membres de la Nouvelle Alliance ne sont point encore sortis de l'ancienne. Oui, j'en ai l'invincible conviction, nos églises et nos associations chrétiennes abritent une foule de personnes qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Ce sont des candidats, mais non des possesseurs de cette grâce. Au plus, assimilerait-on leur état à celui des apôtres avant la Pentecôte, et mieux encore à celui des 12 disciples à qui Paul, pour les avoir vus de près, dut adresser cette question directe. « Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Évangéliques, ils le sont, et très conservateurs de formes et de formules, très pratiquants aussi, et souvent très fanatiques de leur Église, très corrects de conduite, très zélés, très consciencieux dans l'administration des œuvres religieuses, Et cependant, les puissances du siècle à venir ne sont pas là. La vie nouvelle n'a pas jailli. Le monde des expériences spécifiquement chrétiennes n'est pas ouvert. La bouche n'est pas déliée. Le cœur n'est pas fondu. L'amour des âmes n'y est pas allumé. Ils n'ont jamais enfanté qui que ce soit à Christ. Croyant comme ses 12 disciples, ils n'ont point eu leur Pentecôte. Et pourquoi ? Eh bien, c'est que les uns, dans le fond, n'y tiennent pas beaucoup. Ils ne sont pas décidés à tout avoir parce qu'ils ne le sont pas à tout donner. Sans mort, ils s'en doutent, sans mort à soi-même et au monde, pas de Pentecôte. Et ils redoutent la mort. C'est pourquoi ils l'ajournent et le temps s'écoule et un état se prolonge, très subtil, qui, providentiel et bon alors qu'il était provisoire, devient dangereux et coupable quand on le perpétue intentionnellement. Ô combien je voudrais émouvoir à salut toutes ces âmes, au nom de l'Évangile qu'elles discréditent, au nom de l'humanité que leur stérilité prive de bénédictions dont elles devaient être les organes, au nom de Jésus-Christ qu'elles frustrent du prix de son labeur, au nom de leurs intérêts éternels qu'elles mettent dans le plus grand péril. Mais il en est d'autres à qui ne manque qu'un peu de lumière. Comme Apollos, comme les 12 disciples d'Éphèse, elles ne demandent qu'à être instruites. Oh, qu'il me soit donc accordé de les instruire par ces études, et que dès aujourd'hui je puisse les convaincre qu'elles ont droit au Saint-Esprit, puisque Jésus-Christ le leur a acquis au calvaire. Qu'au pied de sa croix, et en se livrant d'avance tout entière, elles demandent l'Esprit et le reçoivent par la foi, sans rien sentir peut-être, et cependant toute prête à obéir dès que l'hôte divin manifestera sa présence. Alors, à leur tour, de leur foi jeune et ardente, elles rallumeront la nôtre qui a vieilli, afin que tous, dans un même élan d'adoration et de gratitude, nous puissions élever jusqu'à Dieu cette affirmation triomphante « Je crois au Saint-Esprit ».